Culture Club, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Christophe Maury.
Bonjour Stéphane Covio.
Bonjour Christophe Maury.
Nous recevons Anne Robbins, vous êtes conservatrice peinture au musée d'Orsay. Vous êtes co-commissaire de la formidable exposition Paris 1874, inventer l'impressionnisme, avec en parallèle cette merveilleuse exposition en réalité virtuelle qu'il faut aller voir pour découvrir l'accrochage. A priori, oui, de cette première exposition des impressionnistes, 35 boulevard des Capucines, c'était le 15 avril 1874. Alors nous avons balayé la troisième, et puis on a commencé à parler de la quatrième exposition qui était en 1879. Alors là, il y a 16 membres, il n'y a plus que 16 membres, ils étaient 31 au départ. Et puis on a d'autres femmes qui viennent, d'autres peintres qui se présentent, il va y avoir des éventails qui vont être aussi présentés.
Oui, alors c'est une des caractéristiques de cette quatrième exposition impressionniste en 1879 qui est importante, puisque on va y voir effectivement une espèce de diversification dans le type d'œuvre qui est présentée et un certain nombre d'éventails, donc de Degas, de Pissarro, qui témoignent de leur intérêt pour l'objet, pour le décoratif. Et Degas va même encourager Morisot, Berthe Morisot, Marie Braquemont à en exposer. Donc, et ça, c'est nouveau, c'est la première fois que ce type d'objet va impressionniste. Et leur donner ce caractère neuf. Alors, il y avait déjà eu des projets décoratifs au sein des expositions impressionnistes dès 1876, avec Monet qui va exposer son grand déjeuner, le panneau décoratif. Donc, c'est déjà une dimension qui est présente, mais qui en 1879 est peut-être davantage encore renforcée, puis c'est aussi l'année où son triptyque, ce tableau qui se compose de trois panneaux, donc du pêcheur à la ligne, des baigneurs et des canotiers. Ça va vraiment une identité, ça va contribuer à forger l'identité de cette exposition.
1879, je cite Laurent Manœuvre dans son livre « Quand les impressionnistes s'exposaient », qui reprend ses 8 expositions. Au début de l'année 1879, Caillebotte invite à dîner Pissarro, Degas, Monet, Renoir et Sisley pour discuter d'un projet d'une nouvelle exposition. À la mi-mars, le nombre de participants reste incertain. Degas écrit « Eh bien, maître Caillebotte, ça ne marche pas, dites-le sérieusement. Sisley renonce. J'ai vu Pissarro ce matin. Cézanne va arriver dans quelques jours. Guillaumin le verra de suite. Monet ne sait qu'une chose, c'est qu'il n'en voit pas au salon. Manet a persuadé à une dame, dont Forain faisait le portrait, que la place de Forain n'était pas avec nous. Amène pour le petit Forain. Mademoiselle Cassatt voit demain Mademoiselle Morisot et sera sa résolution. » Pour une fois, l'adhésion de Morisot n'est pas garantie. On voit le ton, on voit le comment ils s'interpellent les uns les autres. Alors, machin vient pas, l'autre arrive dans deux jours, qu'est-ce qui se passe avec un tel ? Vous ne voulez pas d'un tel ? Ok, amène pour machin. C'est très très direct.
Et, hein. Et voilà, donc je pense que c'est caractéristique du mode d'organisation de ces événements. Donc avec vraiment une dimension d'improvisation jusqu'à la dernière minute, d'incertitude quant à qui en serait, qui n'en serait pas, ces amitiés, inimitié, dissidence soudaine, retour au salon. Je pense que voilà, là pour le coup, cette citation est emblématique de la manière dont les expositions étaient organisées. Tout ça relativement aussi à la dernière minute, puisque c'était toujours à peu près le même scénario. Il fallait trouver un local qui va jamais être le même, puisque ces expositions-là, toutes les huit sont nomades par définition. Ben oui. Elles vont jamais se tenir deux fois au même endroit. Alors, sauf en 1881, le groupe revient à Boulevard des Capucines, revient au 35 Boulevard des Capucines, mais pas dans la même partie de l'immeuble. Donc, ne réinvestit pas l'ancien atelier de Nadar, mais va être dans un autre espace. Mais c'est toujours cette course au local.
Oui.
Alors, malgré le caractère improvisé qu'on évoquait il y a un instant, j'imagine qu'il y a quand même des leaders, parce que pour parvenir au terme d'une entreprise comme celle-là, il faut bien que quelqu'un prenne en charge la logistique enfin de la chose.
Alors,
comment ça se passe?
Qui varie d'une année sur l'autre, et même, voilà, même pour 1874, qui est vraiment l'exposition sur laquelle on s'est évidemment le plus concentré pour
réaliser vos deux expositions
pour notre, notre exposition, en fait, ça varie. Donc, Pissarro est très impliqué, puis plutôt Degas dans les dernières semaines qui précèdent l'ouverture. Donc là aussi, pas de schéma fixe. En 79, Degas est très investi.
Oui, c'est lui qui est très important.
Voilà, il est très important. Il a un envoi son envoi est très complet, donc des scènes de la vie moderne, donc de très beaux portraits. Il y a le portrait de Diego Martelli, le portrait de Duranti, donc des portraits de chanteuses, et puis cette formidable acrobate, donc Miss Lala au Cirque Fernando, le tableau qui est actuellement à la National Gallery et qui d'ailleurs fait en ce moment l'objet d'une exposition.
Donc vous êtes commissaire.
J'ai eu la chance, voilà, d'assurer le commissariat ce printemps, donc qui a ouvert une exposition qui a ouvert il y a quelques semaines et qui durera jusqu'au 1er septembre, donc qui, dont l'entrée est gratuite à la National Gallery de Londres. Alors, et donc un tableau absolument saisissant, enfin extraordinaire par l'audace de sa composition, donc qui montre Miss Lala. Alors son vrai nom c'était Olga Brown, qui est suspendue au cimaise du cirque Fernando, qui était un endroit très à la mode, un cirque encore très neuf à Paris, qui avait été inauguré quelques années avant. Et elle est suspendue à ce plafond du cirque Fernando, donc à 20 mètres de haut. Elle est tenue par une corde qu'elle tient entre ses dents. Donc il y a à la fois une performance physique extraordinaire, avec un élément de cruauté, de danger. Et Degas, en fait, qui habite dans le quartier, puisque son studio et son atelier est tout à côté, et vient très régulièrement au cirque Fernando et va, alors au départ, faire des croquis de cette acrobate sur place, dans ses petits carnets de dessins qu'il a dans sa poche, et qui sort, qui fait ses petites esquisses, et puis ensuite va l'inviter dans son atelier rue Fontaine, où il va recréer la pose, son numéro d'acrobatie, en installant une poulie au plafond de son atelier et en la suspendant pendant des séances de pose qui devaient être absolument
horribles,
épuisante pour pouvoir la dessiner de manière plus approfondie, et ce qui va résulter dans ce tableau extraordinaire qu'il envoie à la quatrième exposition en 1879, mais qui n'arrive pas à temps. Alors ça, c'est absolument là aussi caractéristique de la manière dont travaille Degas, qui était un très grand procrastinateur, qui n'est jamais prêt à temps pour la date d'ouverture des expositions. Et Caillebotte va s'en plaindre. Là, il dit quelque chose du genre il est bien embêtant, mais il faut reconnaître qu'il a du talent. Alors il est bien embêtant justement parce que alors que le catalogue est imprimé, donc listant les 20 et quelques tableaux de Degas devant figurer dans l'exposition, je crois qu'au moment de l'ouverture, il y en a 7 ou 8. Donc il en manque encore un très grand nombre.
Alors justement, pendant les 7 expositions auxquelles il participe, Degas va présenter 124 œuvres, ce qui fait une moyenne de 17 œuvres par exposition.
Mmh, oui, c'est à peu près le tome paraît correct, la proportion paraît correcte. Et puis il est très malin aussi, puisque ça, dès 1874, tout n'est pas à vendre. En 1874, je crois que la majeure partie de ses œuvres, en fait, il les emprunte à des collectionneurs, enfin des amis, oui. Des collectionneurs qui ont déjà investi dans son travail pour justement bien faire valoir le fait que sa peinture a déjà trouvé preneur. Et donc, si elle a trouvé preneur, c'est qu'elle a une valeur. Donc, oui. C'est une façon de promouvoir son travail qui est différente. Ce n'est pas à vendre, mais les œuvres ne sont pas à vendre, mais ça va tout de même
très malin.
Asseoir sa réputation en tant qu'artiste. Exactement.
C'est très malin. Donc ça, c'était la quatrième exposition, où il y avait notamment, puisqu'on parle de Degas, la fameuse chanteuse de café de 1878, qui est un tableau incroyable, avec cette main gantée et ce cri cette bouche ouverte, et surtout la façon dont dont il est composé, c'est-à-dire la façon dont elle est cadrée, parce que là vraiment, elle est vraiment en majesté.
Et oui, et puis c'est très frontal avec des couleurs très
rose et noir,
très très intense. Exactement, le tableau est absolument saisissant.
Cinquième exposition, nous sommes en 1880. L'exposition réunit 19 participants, Marie et Félix Braquemont, on va peut-être en parler, et Caillebotte, bien sûr, Cassade, Degas, Forain, Gauguin, Guillaumin, Le Bourg, Le Vert, Morisot, qui est de retour, Pissarro, Raffaelli, Rouard, qui arrive là pour la première fois, Thillot, Vidal, Vignon, et Zandomeneghi. Le groupe est passé de 16 membres en 1879 à 19 en 1880, et le lâchage de Monet après celui de Renoir frappe les esprits.
Alors voilà, oui, donc Monet a rejoint Renoir dans son refus d'exposer avec les impressionnistes en 1880, et va être suivi de Sisley, donc il y a vraiment ces artistes qui en constituent en 1880, déjà en 1879, les piliers du groupe vont en être absents, et favoriser une sorte de recomposition du groupe.
L'impressionnisme se meurt, la phalange sacrée ne se recrute plus, M. Degas demeure sans disciple et M. Pissarro ne fait pas d'élèves. Bien mieux, les anciens pontifes désertent, M. Claude Monet est passé à l'ennemi, cette année, il expose au salon.
Voilà.
On voit la violence.
Oui, il y a vraiment deux camps, et Degas tenait à ce que ce soit un principe exclusif, donc quiconque expose avec les indépendants, enfin les impressionnistes, voilà, puisque il y a toujours cet aspect fluctuant de la manière dont ils se nomment. Quiconque expose avec les indépendants ne peut exposer au salon. Alors qu'en 1874, on avait encore au sein du groupe, enfin des 31 artistes de 1874, un certain nombre, je crois qu'il y en avait 12, qui montrent des œuvres à la fois au salon et dans l'atelier de Nadar. Alors c'est pas les artistes qu'on considère aujourd'hui comme impressionnistes, ils font pas partie de cette pléiade des sept. Degas, Renoir, Monet, Pissarro, Cézanne, Morisot et Sisley, mais il était possible d'être des deux côtés, de montrer des deux côtés.
Alors Monet et Renoir adressent au ministre des Beaux-Arts une lettre qu'ils demandent à Zola de publier. « Monsieur le ministre, deux artistes connus sous le nom d'impressionnistes s'adressent à vous avec confiance pour obtenir d'être exposés l'année prochaine au Palais des Champs-Élysées dans des conditions convenables. » C'est quand même énorme, non? Ce groupe de copains, et finalement, hop, ils font bande à part, et ils écrivent au ministre, et ils demandent à Zola d'envoyer en disant
l'an prochain, de l'autre côté. Oui.
L'an prochain, on veut en être. Oui. Sixième exposition, 1881. En janvier 81, Caillebotte, encore lui, entreprend de réformer l'organisation du groupe. Il veut exclure des artistes qui ne lui semblent pas entrer suffisamment dans la ligne esthétique impressionniste. Pissarro proteste. Le seul principe possible est celui de ne pas lâcher des confrères que l'on a, à tort ou à raison, acceptés. Et que l'on ne peut jeter dehors sans façon, c'est aussi une question d'honnêteté. Et ça recommence. La bagarre. Voilà,
exactement. Alors en 1881, Degas va rallier deux de ses amis, donc des artistes italiens qui sont Zandomeneghi et Raffaelli. Et je crois que Raffaelli va être l'exposant le plus important en termes du nombre d'œuvres qu'il y montre, je crois, avec pas moins de 32 œuvres. Ce qui va susciter le désaccord de Caillebotte et provoquer son désistement cette année-là. Donc c'est l'année où Caillebotte, de toute façon n'était pas présent en 1874 puisqu'il ne faisait pas encore partie du groupe, mais Caillebotte se retire pour manifester son mécontentement. C'est aussi l'année où Degas va montrer une sculpture qui est la petite danseuse âgée de 14 ans. Alors c'était là aussi, donc j'ai parlé de Degas, grand procrastinateur. En fait, l'envoi était prévu l'année précédente. Mm-hmm. La vitrine était prête. en 1880 et ne sera jamais l'œuvre, la sculpture ne rejoindra jamais. Alors, ce qui rend les choses très compliquées avec Degas, parce que le fait qu'une œuvre soit décrite dans le catalogue des expositions ne veut absolument pas dire qu'elle y a été montrée. Et c'est pour ça qu'il faut, c'est là où nous, historiens d'art, on a besoin de faire ce travail de recherche et de lecture de toutes les critiques, de toutes les recensions des expositions pour à la recherche de mentions des œuvres qui sont la validation ultime de la présence ou non d'une œuvre dans l'exposition, sachant que les critiques n'ont pas non plus forcément tout commenté, mais on ne peut pas considérer le listing d'une œuvre dans le catalogue comme la preuve absolue qu'elle y a figuré, en particulier avec Degas.
Donc c'est à cette sixième exposition que l'on voit cette fameuse petite danseuse de 14 ans qui est enfin exposée, et puis l'arrivée de Paul Gauguin. On passe en 82.
L'arrivée de Paul Gauguin, exactement, avec des sculptures. Alors voilà, qui montre, je crois, qui commence à exposer dès 1879 avec le groupe.
Oui.
Et qui va montrer des sculptures, effectivement.
Et à ce moment-là, on parle déjà du déclin de l'impressionnisme.
Oui, alors ça.
C'est la première fois.
Alors, ce qui est très évident, c'est que le groupe n'a pas d'unité. Il n'y a pas d'unité. Il n'y a jamais eu vraiment le.
Il n'y
a pas de manifeste esthétique. D'abord, dès le départ, la première exposition impressionniste est une entreprise commerciale. C'est un groupe d'artistes qui veulent exposer leur travail pour le montrer et le vendre. Mais il n'y a pas de texte, de manifeste esthétique qui viennent décrire leurs idées, leurs théories, qui accompagnent ces expositions. Et encore une fois, voilà, les contours des expositions ne vont cesser d'être remodelés, de fluctuer d'une année sur l'autre. Et c'est peut-être en 80-81 qu'on voit le groupe se désagréger, réellement commencer à se désagréger.
Et ça va aussi être lié à la santé financière de notre ami Durand-Ruel. Est-ce que l'on va voir dans l'exposition la 7e en 1882 toutes les œuvres appartiennent à Durand-Ruel? Et en fait, c'est le galeriste qui veut vendre pour lui-même.
Voilà, exactement. Alors, Durand-Ruel est très impliqué en 1882, puisqu'il va être... c'est lui qui va faire une partie de la sélection des œuvres qui vont être montrées dans l'exposition. Donc, ce sont des œuvres de son stock, de son stock de peinture qu'il va montrer dans cette exposition. Alors, avec là aussi, c'est une exposition qui est pas parmi les plus intéressantes parce qu'elle a, elle a de ce fait cette homogénéité qu'on avait déjà vue en 1877, mais sa sélection est effectivement tout à fait remarquable. Enfin, elle compte des chefs-d'œuvre de l'impressionnisme. Mais ce qui veut aussi dire que ça marque aussi un moment de désengagement des artistes par rapport à cette exposition. Oui. La sélection n'a pas été faite par eux, par exemple. Voilà, donc,
l'accrochage est établi par Caillebotte.
Oui.
L'accrochage est établi par Caillebotte. Oui. Et il y a plus de 200 œuvres qui sont exposées. Donc c'est considérable. C'est le stock de Durand-Ruel. Et finalement, la conclusion, c'est que c'est un échec déplorable, autant pour le marchand que pour les peintres. Parce que comme il ne va pas beaucoup vendre, la cote va baisser. Le pauvre Durand-Ruel qui voulait se refaire une santé financière en reprenant tout en main, parce que c'est vraiment ce que vous disiez tout à fait, c'était l'exposition d'un marchand, d'un galeriste là.
Oui, même si l'exposition ne se tient pas, c'est pas dans sa galerie. Je crois que cette exposition-là, elle est dans les salons du panorama de Reichshofen, donc qui était, vous savez, ce panorama. Un panorama, c'était une forme de divertissement populaire dans les années 1870. Alors là, évidemment, la bataille de Reichshofen. Parlant de la guerre de 70, et il y avait un salon attenant à ce panorama, donc très un espace très différent, puisque la plupart de ces expositions, elles se tenaient dans des appartements privés, mais là c'est beaucoup plus haut de 6 mètres. Donc ça fait partie des expositions qui sont très bien identifiées. C'est aussi l'année où Degas et Cassatt se retire, puisque Caillebotte ne veut plus de Raffaelli, et ça va provoquer le départ, enfin le départ de Degas, qui pourtant a payé sa cotisation, donc il est quand même assez grand seigneur, et de Cassatt qui lui emboîte le pas.
Enfin, la dernière exposition, 86, Manet est mort depuis 3 ans. Et puis, ça fait quand même un blanc dans le texte. Mmh. Et cette exposition, elle est triste finalement, parce qu'on a le sentiment que l'impressionniste se termine. Même regarder les grandes baigneuses de Renoir, on est... Non, elles sont pas là.
Non. Non, elles ont été montrées chez Petit. Mais alors justement, ce que ça nous dit aussi, c'est qu'en 1886, le paysage artistique a changé. Il y a eu 4 ans quand même entre 82 et 86, pour enfoncer une porte ouverte. Donc le temps a passé, les artistes ont d'autres débouchés artistiques que ces expositions impressionnistes. Durand-Ruel organise, donc qui ne cesse de réinventer, de trouver de nouvelles manière de montrer son travail, va organiser une série d'expositions monographiques dans un espace boulevard de la Madeleine. Il y a d'autres plateformes pour ces artistes, pour montrer leur travail. Il y a effectivement la galerie Petit qui va déployer des efforts pour promouvoir cette nouvelle peinture. Donc il y a plus la même nécessité pour ces artistes d'avoir recours à ces expositions impressionnistes pour montrer leur travail.
Et puis il y a la sortie en 1886 de l'œuvre de Zola, qui va être pris pour une trahison. Zola met en scène l'un des fils de Gervaise, Claude Lantier, qui est un peintre né en 1842. La lecture de l'ouvrage plonge les impressionnistes dans un profond désarroi. Le 4 avril, Cézanne écrit à Zola: « Je viens de recevoir l'œuvre que tu as bien voulu m'adresser. Je remercie l'auteur des Rougon-Macquart de ce bon témoignage de souvenir et je lui demande de me permettre de lui serrer la main en songeant aux anciennes années, tout à toi sous l'impression des temps écoulés, et voilà. Les deux hommes ne se reverront plus jamais. »
Ce qui va marquer un terme définitif à une amitié qui pourtant avait des racines très profondes, puisque c'était...
Depuis l'enfance,
à Aix-en-Provence.
Et
l'un défendant l'autre, et l'autre le remerciant.
Oui. Et l'un qui voulait être peintre, et l'autre... Voilà. Et l'un... Zola qui voulait être peintre, et Cézanne, le fils du banquier, le petit Paul, qui voulait être écrivain. Donc ça, c'était quand même assez étonnant. Et toujours au sujet du livre, Monet s'adresse à Pissarro. « Avez-vous lu le livre de Zola ? J'ai grand peur qu'il ne nous fasse grand tort. Puis à Zola, je reste troublé, inquiet, je vous l'avoue. Comment ne pas l'être ? Le héros de l'ouvrage se prénomme Claude, comme Monet. Le personnage s'inspire à la fois de Monet et de Cézanne. L'atelier de Claude se situe quai d'Anjou, comme celui de Guillaumin. Plusieurs passages du livre font référence, de manière à peine voilée, à des incidents vécus par l'un ou l'autre des impressionnistes. L'intention de Zola était de peindre la lutte de l'artiste contre la nature, l'effort de la création dans l'œuvre d'art, effort de sang et de larmes pour donner sa chair, faire de la vie, toujours en bataille avec le vrai et toujours vaincu, la lutte contre l'ange, écrit Zola. Et finalement, ce magnifique roman, c'est un peu la disparition, c'est un peu la pierre tombale des impressionnistes.
Voilà, presque. Alors oui, c'est intéressant effectivement que c'est la publication en 1886, coïncidant avec la dernière exposition impressionniste. Ça marque la fin d'une ère.
Alors après, il y aura des post-impressionnistes ?
Des néos. Alors les néos, c'est aussi ce qui va faire l'identité de cette dernière exposition en 1886, c'est son intégration de nouvelles tendances artistiques qui se sont fait jour dans l'intervalle avec le groupe des indépendants, le salon des indépendants 1884, qui voit l'émergence donc de d'artistes plus jeunes autour de Seurat, Signac, et d'une nouvelle façon de peindre qui se fait jour encore une fois, donc le divisionnisme, et auquel va adhérer Pissarro, et c'est Pissarro qui va inviter, qui qui va intégrer cette nouvelle tendance au sein de la dernière exposition impressionniste en 1886.
Et c'est peut-être lui le héros. En tout cas, merci infiniment, Anne Robbins. Vous êtes conservatrice peinture au musée d'Orsay. Vous êtes co-commissaire de l'exposition Paris 1874, Inventer l'impressionnisme pour le 150e anniversaire de cette formidable invasion de blondeur sur toutes les palettes des peintres, écrivait Zola. Voilà. Merci Stéphane Covio. Merci Cédric Coba pour la réalisation. François Dieudonné, Philippe Malpeuch, Camille Meyer et Faustine Cléry pour la réussite technique de notre entretien. Je rappelle que le catalogue de l'exposition est toujours en vente et il est merveilleusement fait. Et puis pour préparer cette émission, je me suis inspiré du livre de Laurent Manœuvre, Quand les impressionnistes s'exposaient, aux éditions de l'Atelier Contemporain Histoire de l'Art. Demain mardi, nous repartons à bicyclette. Prenez soin de vous et des autres.
Ah oui, j'allais juste ajouter que l'expérience en réalité virtuelle, Un soir avec les impressionnistes, est ouverte jusqu'au 11 août.
Jusqu'au 11 août, on se précipite. Prenez soin de vous, des autres, je vous embrasse.